frères et sœurs, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous ne devons pas être les spécialistes, parce que c'est souvent le cas, hein, de penseurs d'impossibilité. Oh, c'est pas possible. Oh, je ne peux pas. Mais de penseurs de possibilité. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut conquérir. Alléluia. C'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Et je vais vous dire, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu pour cela, parce que la parole de Dieu nous parle et nous dit des choses extrêmement puissantes en ce qui concerne le tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible si vous avez la foi. Tout est possible si vous croyez que Dieu est avec vous. Tout est possible. Et j'aimerais qu'on ouvre notre Bible. Alléluia. Dans quelques passages que nous allons lire et ensuite nous parlerons. Amen. Regardez dans Luc chapitre 1. Tout à l'heure nous chanterons et nous danserons encore. Hein. Luc 1 verset 37. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien on nous dit une chose formidable. On nous dit, vous savez c'est l'histoire où un ange de Dieu vient visiter Marie. Et cet ange va lui faire une communication extraordinaire. Il va dire, Marie, tu vas être enceinte, tu vas avoir un bébé, tu reçois une visite d'un ange. Et l'ange va lui faire une communication extraordinaire. Et Marie, vous savez, c'est une jeune fille. Vous savez, les jeunes sont ceux-là d'extraordinaire, c'est qu'ils sont ouverts. Hein? Les jeunes n'ont pas encore fait l'expérience dans la vie de choses difficiles ou dures, ou sont pas devant des murs encore. Tout est encore possible. Ils ont une foi ou simplement une confiance dans la vie. Ça, cela vient de la jeunesse, d'un esprit de jeune. Amen. Et donc, Marie est une jeune fille. Donc, elle est pleine d'enthousiasme, de zèle. Et cette visitation de l'ange la surprend. Et cet ange lui dit quelque chose. Mais est-ce qu'elle va fermer sa porte ou son cœur à cette chose? Elle va dire, comment cela est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible? Vous savez, ça, c'est une réponse de jeune. C'est pas quelqu'un qui dit, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne crois pas, comme a fait, vous savez, Zacharie, le mari d'Élisabeth. Hein? Le mari d'Élisabeth. la cousine de Marie. Bon. Et non. Elle a dit, comment c'est possible? Ça m'intéresse, ton idée. Ça m'intéresse. Comment est-ce que c'est possible? Et l'ange lui dit, bah écoute, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le petit que tu vas enfanter, eh bien, il viendra du Saint-Esprit. Alors là, il faut le recevoir, cette parole. Hein. Et qu'est-ce qu'elle dit, là, regardez. Elle dit, verset 35, l'ange lui dit, tu vois, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Cette puissance te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Alors Élisabeth, tu vois, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée autrefois stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà ce que l'ange déclare. Un ange, notamment, comme vous le savez, vient du ciel. Il vit dans la présence de Dieu, il vit devant le trône de Dieu, il voit Dieu. Cet ange est envoyé sur terre. Et il déclare ce qui est dans le cœur de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et frères et sœurs, cette parole, Marie la reçoit. Et c'est parce qu'elle reçoit ce « rien n'est impossible à Dieu » qu'elle va concevoir son bébé. Et frères et sœurs, cela nous parle de nous. Vous voyez, nous sommes souvent des penseurs d'impossibilité. On transmet ça à nos enfants, on vit dans des impossibilités constantes parce qu'on a devant nous le gros problème de l'argent, le gros problème de ci, de ça, et alors c'est que des impossibilités. Mais Dieu dit, et Dieu nous appelle à croire qu'il est le Dieu de l'impossible, car rien ne lui est impossible. Rendez compte cette dynamite que Marie reçoit une parole d'ange. Ça, c'est un ange qui vient du Seigneur, c'est pas un faux ange. Hein? C'est un ange, Gabriel, qui est délégué par Dieu pour annoncer des choses importantes sur la terre. Et c'est lui qui fait la communication à Marie et qui lui déclare, de la part de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et frères et sœurs, cette parole, vraiment, on va la méditer, on va la mettre dans notre cœur. Et ensuite, on va la mettre devant nos circonstances. Si nous voulons être des penseurs positifs, des penseurs possibilités, parce que c'est ce que Dieu m'a dit, des penseurs de possibilités, Nous devons mettre dans notre cœur cette parole que rien n'est impossible à Dieu. Donc rien ne nous est impossible car Dieu vit en nous. Nous sommes connectés à la foi. Nous sommes connectés au Dieu de l'impossible. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Donc à nous de nous adapter à cette parole et de la mettre dans notre cœur afin qu'elle puisse nous dynamiser. Amen. Ah, rien n'est impossible à Dieu. D'accord. Mais à l'homme, alors, si rien n'est impossible à Dieu, et l'homme, comment il va faire, lui ? Eh bien, il va utiliser sa foi, il va utiliser sa pensée, il va changer son horizon, il va confronter ses situations avec une parole puissante comme celle-ci. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu veut nous aider à être des penseurs de possibilités, non pas des penseurs d'impossibilités. Dans les circonstances qui nous entourent, il y a des impossibilités. Mais Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu de l'impossible. Et il nous dit, n'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas tes espérances, n'abandonne pas ta confiance en Dieu, n'abandonne pas ton zèle, n'abandonne pas ton enthousiasme, n'abandonne pas donc tes rêves parce que rien n'est impossible à Dieu. Garde cela dans ton cœur. Amen. Regardons une autre parole, tout aussi puissante. On la trouve dans Marc chapitre 9. Alléluia. Rien n'est impossible. Mon Dieu, merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Oh, j'ai besoin de foi pour recevoir une parole pareille. Marie avait la foi qu'il fallait, une foi d'enfant qui reçoit. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde tellement lourd sur nos épaules, tellement pesant que nous ne réalisons pas la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes confrontés chaque jour avec les problèmes de ce monde. Donc hier, nous étions aux urgences de l'hôpital de Vichy. Et c'était vraiment terrible, lourd, triste. Les gens arrivaient, il y avait des grands blessés. Deux femmes avec des visages, je ne sais pas ce qu'elles avaient reçu, soit un accident, soit un coup. On aurait dit qu'on leur avait balancé une pierre sur la tête tellement elles étaient contusionnées, le nez écrasé, c'était horrible. Il y avait des blessés et puis des personnes âgées qui étaient plus mortes que vives, qui attendaient, qui savaient même plus, qui étaient même pas vêtues. Je l'avais tissée, cette dame, parce que elle rejetait son drap, elle se dévêtissait devant tout le monde. C'était terrible, quoi, ce que peuvent être les gens et leurs souffrances. Et c'était lourd. Mais je priais dans l'esprit, j'avais pas de fardeau, je priais dans l'esprit. Parce que c'est un lieu vraiment où il faut prier. Les gens sont vraiment dans la détresse. Vous voyez, il y avait un monsieur qui avait fait une attaque cérébrale, qui était un homme pas très âgé. Et avec sa femme, ils étaient dans un box, donc en train d'attendre. Depuis 4 heures, ils attendaient le médecin. 4 heures. D'un seul coup, cet homme... Et moi, je disais, Seigneur, accélère les choses, parce que nous, on y était depuis 7 heures. On en est sorti à 10 heures passées. Je disais, Seigneur, accélère les choses, accélère les choses. Et d'un seul coup, cet homme est sorti, s'était tout rhabillé. Il est sorti, il s'est mis à crier, il était en colère. Il a dit, moi, ça fait 4 heures, j'ai vu personne, je pars. Alors tout à coup, les gens ont bougé, quelqu'un est venu et a dit, monsieur, si vous partez, vous nous donnez une décharge. Vous signez une décharge, c'est sous votre responsabilité. Et alors il dit, oui, mais ça fait 4 heures que je suis là, dans un lit, enfermé dans un box, en train d'attendre, personne ne vient me voir. Qu'est-ce que je fais là? J'aurais pu mourir 10 fois. Alors quelqu'un a dit, on va s'occuper de vous tout de suite. Et il est retourné dans son box, et c'est vrai qu'à partir de là... Il y a quelqu'un qui est venu, il a eu un scanner, les gens ont eu un scanner, on a eu une radio pour Bernard, donc il s'était fait mal à une côte. Et en fin de compte, les choses ont accéléré. Mais les gens auraient pu mourir. Le système et les gens, le système hospitalier était paralysé parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et c'est vrai, la pénurie, c'est vrai qu'il y a un problème. Et c'est vrai que, je ne sais pas l'organisation, mais il y a besoin qu'on prie pour ce service d'urgence. Il y avait des petites choses, des petits problèmes, il y avait des gros problèmes, des accidentés. On a vu passer au fond du couloir du sang, des draps de sang, moi j'ai vu. Donc il y a des choses, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de tragédies. Et donc moi j'étais dans l'esprit, je priais dans l'esprit, j'étais dans la paix, mais on voit le poids qu'il y a. Vous allez dans les hôpitaux, vous verrez le poids de souffrance des gens. On ressent le poids de la douleur des gens. Et on est rentré, il fallait se libérer de tout ça. On priait pour les gens en même temps. Mais il y a ce poids, cette lourdeur dans les hôpitaux, dans les cliniques, où les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Vous voyez, nous on était là, avec le problème de Bernard, mais sans inquiétude, dans la paix. Dans la paix. Et les gens n'avaient pas de paix. On est tellement privilégiés d'être chrétiens. Mais Dieu veut qu'on ait plus. Il veut qu'on vive davantage avec le « tout est possible ». Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des grosses lourdeurs dans cette société. Plus que jamais, on doit garder notre foi et être un penseur de possibilités. Parce que le monde nous crie « Non, n'avance pas. Non, ne crois pas. Non, n'évolue pas. Non, reste comme tout le monde. Fais comme tout le monde. Sois comme tout le monde. » Le monde crie cela. Et l'Évangile nous crie « Va de l'avant avec ce que tu as dans ton cœur. Va de l'avant avec la vision que je t'ai mise. Va de l'avant avec tes rêves qui te sont personnels. Sois un penseur de possibilités. » Donc regardez dans Marc 9. Et c'est vrai, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai compris que c'est ce qu'on a le plus besoin, de garder nos rêves et de ce... On est confronté à un monde négatif. Et nous-mêmes, toutes les fois, on pleurniche sur le temps, on pleurniche sur ci, on pleurniche sur ça. On est nous-mêmes, on peut dire, pollués nous-mêmes. Ça arrive, on a des états d'âme parce qu'il fait froid, etc. On n'est pas dans la foi. On est dans ce monde-là, frères et sœurs. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et c'est vrai qu'on a besoin de nous rappeler que nous sommes connectés à un Dieu qui dit que rien n'est impossible, à un Dieu qui dit que tout est possible à Dieu. Nous sommes connectés où tout est possible. Alléluia. Regardez dans Marc 9, verset 23. Alors, vous savez, c'est la guérison d'un démoniaque. Et donc, Jésus est allé sur la montagne de la Transfiguration avec ses disciples. C'était merveilleux. Ah, les disciples voulaient une tente et passer leur vie là. Mais Jésus leur dit, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant on descend. Et on va retrouver le reste de l'équipe. Et le reste de l'équipe était en train de se battre avec des problèmes. Ils étaient confrontés à un garçon qui était possédé d'un esprit muet. Et ils se battaient avec le démon. Ils n'arrivaient pas à libérer ce garçon. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas pour eux. Ils disaient, esprit muet, pars, quitte ce garçon. Et ça marchait pas. Ils étaient dans les problèmes. Regardez, Jésus arrive, verset 18. En quelques lieux, donc, verset 16. Regardez, c'est intéressant. Jésus arrive vers cette foule. Et les disciples sont là et ils leur demandent, sur quoi discutez-vous avec eux, vos disciples? Vous discutez avec les gens, sur quoi vous parlez-vous? Alors ils commencent à dire, un homme de la foule répond, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Mais en quelques lieux que cet esprit le saisit, ça le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. Je sais que c'est démoniaque, dit cet homme. Tu vois, je l'ai amené à tes disciples et... J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Et Jésus voit cet homme, Jésus voit ce petit qui se jette partout. C'est visible qu'il a un démon. Et Jésus se retourne vers ses disciples et il leur dit, race incrédule. Vous vous rendez compte? Leur dit-il, jusque à quand serai-je avec vous? Jésus piqué des colères, hein? Faut pas croire que c'était Bouddha. Ou que c'était, vous savez, le nirvana total, le néant, et que Jésus était sur un petit nuage et puis que rien le touchait. C'était un, il était dans l'humanité totale, il était humain 100%. Et il se met en colère parce qu'il voit le besoin et il voit l'incrédulité de ses disciples. Et l'incrédulité, frères et sœurs, vraiment irrite Dieu. Chaque fois que nous sommes dans l'incrédulité, Dieu attend, nous regarde et dit « Mais ça va durer longtemps, son cirque ?» C'est, excusez-moi, c'est sûrement pas ce qu'il dit, mais ça veut dire ça. Ça va durer longtemps, son incrédulité ? Dieu n'aime pas l'incrédulité, vous voyez ? Et il se tourne vers ses disciples et dit « Race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous ? Jusque à quand vous supporterai-je ? Allez, amenez-le-moi » Et on lui amena, aussitôt que l'enfant le vit, Jésus, eh bien, l'enfant... L'esprit l'agita avec violence. Cet enfant tomba par terre et il se roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit le Père. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Vous voyez, cet homme, il sait que c'est démoniaque. Il sait, c'est déjà beaucoup de savoir qu'il y a des manifestations démoniaques. Et les disciples ne comprennent pas, ça marche pas, parce qu'ils n'ont aucune foi. Et Jésus pose des questions à ce père pour voir à quel point ces gens souffrent. Depuis son enfance, cet enfant est comme cela. Et cet homme lui dit de tout son cœur, si tu peux, fais quelque chose. Ça veut dire, je me bats depuis des années pour sortir mon fils de là. Je n'abandonne pas. Cet homme a de la foi. Mais il ne sait pas qui est Jésus. Alors il lui dit, si tu peux, fais quelque chose. Jésus va lui répondre, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors vous voyez, ça c'est une parole pour nous ce soir. Là c'était pour chasser un démon. Mais nous avons besoin de bouger les barrières. Nous avons besoin de bouger les murailles. Nous avons besoin de bouger les choses. Et Dieu nous dit à travers sa parole, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous croyons que les murailles de Vichy peuvent être défoncées? Est-ce que nous croyons que l'incrédulité de cette ville peut changer? Est-ce que nous croyons que l'assemblée peut se multiplier, que Dieu peut libérer sur nous une onction de multiplication? Est-ce que nous croyons? Alléluia, je réponds oui, amen. Oui, tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, soyons des penseurs de possibilités. Et pour cela, il nous faut travailler notre pensée. Parce que notre cœur connaît des choses et notre pensée s'oppose à ce que notre cœur connaît constamment, parce que notre pensée est en relation avec le monde naturel, et dans le monde naturel, c'est non, non, non. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Amen. Et dans le monde de Dieu, si nous avons la foi, Dieu dit tout est possible, tout est possible, tout est possible, et tout, c'est tout. Tout est possible. Jésus n'a pas limité ça, il dit tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Réfléchissez. Tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Ça veut dire quoi? Frères et sœurs, si nous ne croyons pas que les choses sont possibles, si nous croyons que les problèmes vont se multiplier, eh bien c'est une foi. Mais si nous croyons que nos rêves peuvent se réaliser, si nous croyons que tout est possible, et si nous alignons notre pensée sur ce tout est possible, nous commençons à mettre ce tout est possible dans notre tête, dans notre pensée, nous allons voir des choses changer. Et je sais qu'on en a tous besoin ici. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'a dit l'ange tout à l'heure? Rien n'est impossible à Dieu. Et là, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Je crois que c'est pour nous des paroles puissantes. Ce tout est possible à celui qui croit, vous allez le retrouver dans tous les évangiles. Ça veut dire les évangélistes ont été tellement touchés par cette parole qu'ils l'ont reproduite dans Luc, dans Marc, dans Matthieu. Vous la trouvez partout, cette parole. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est le mot des vainqueurs. Quel est le mot que je dois dire et que je dois mettre dans ma tête? C'est possible. Je peux. Voilà un mot puissant qui résout toute chose. C'est le mot « je peux le faire ». « Je peux l'avoir ». « Je peux agir ainsi ». « Je peux ». Tout est possible. C'est possible. J'en ai la possibilité parce que j'ai confiance en Dieu. Je peux le faire. Je peux l'obtenir. Je peux le réaliser. Je peux. Voilà le mot le plus puissant en réponse à ce que Jésus a dit. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit dit je peux. Réfléchissez, frères et sœurs. Si je dis je peux, ça me tient. C'est de la foi. Je suis en train de changer ma pensée et je dis je peux l'obtenir. Je peux réaliser. Je peux agir. Je peux être. Je peux. Notez cela, vous devriez le noter, le « je peux » est la parole la plus puissante que nous pouvons déclarer quand nous sommes des penseurs de possibilités. Un penseur de possibilités vit sa vie comme s'il était un professeur ou un scientifique qui fait des expériences. Vous savez, les pommes, elles sont tombées de tous les arbres pendant des siècles. Mais il y a eu un homme qui a reçu une pomme sur la tête. Et là, il a eu une pensée. Il s'est dit, tiens, les pommes tombent. Elles ne montent pas, elles tombent. Et grâce à cette pensée, il a découvert la loi de la pesanteur. C'est Newton, hein, c'est ça? La pomme, hein? Pourquoi? Parce qu'il observait. Parce qu'il était un penseur de possibilités. Parce qu'il vivait sa vie en analysant les choses, mais en les voyant positivement. Et est-ce qu'il faisait des recherches sur les pommes? Est-ce qu'il faisait des recherches sur la pesanteur? Non! Mais il était en recherche perpétuelle. Il était peut-être pas en recherche sur la pesanteur, mais ça a été une révélation, la pomme qui lui est tombée sur la tête. Eh bien, il s'est dit, tiens, mais elles tombent, ces pommes. Et si je la jette en l'air, eh ben, elle n'y reste pas. Elle retombe. Et avec là, ça a été une lumière. Pourquoi ? Parce qu'il était un penseur de possibilités. Dans sa tête, il expérimentait sa vie. Vous voyez, les chercheurs, être chercheur selon Dieu, vous savez, Jésus a dit une chose très, très extraordinaire, il a dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous passons dans le monde. Notre futur est devant nous. Amen. Mais dans ce monde, nous vivons comme des scientifiques ou des gens qui expérimentons les choses. Et il nous faut vivre avec cela dans notre cœur. Être ouvert aux idées, être ouvert aux pensées, être toujours en éveil, réfléchir à nos opportunités, réfléchir aux situations qui s'ouvrent devant nous et surtout penser possibilité, non pas impossibilité. Et si nous commençons à penser possibilité, nous ouvrons une énergie extraordinaire dans notre tête parce que notre esprit, lui, il pense. Il ne pense pas, mais il est positif. Il est rempli de la possibilité de Dieu. Il est rempli du « tout est possible ». Il est rempli de « rien n'est impossible à Dieu ». N'est-ce pas vrai? Il est connecté à Dieu. Mais ma tête, elle, c'est que de l'impossibilité. C'est impossible, c'est pas possible, il y a ça, il y a ci, il y a les problèmes, il y a l'argent, il y a le problème. C'est à cause des gens, c'est à cause de la ville, c'est à cause de... Non, c'est à nous de penser possibilité. C'est possible, amen. C'est possible de vivre sa vie en expérimentant des choses et en étant alerte, ouvert et en comprenant les expériences de la vie. En étant vraiment comme ces scientifiques, je disais, qui testent les choses et qui sont ouverts. Qui ont un esprit ouvert et une pensée possibilité ouverte. Si vous pensez possibilité pour vous, votre famille, votre travail, votre vie personnelle, vous êtes en train de vous connecter à l'énergie de Dieu qui est l'énergie puissante qui crée les choses. Si vous pensez possibilité parce que vous avez des rêves dans votre cœur et vous pensez c'est possible, je les réaliserai. Oui, mais personne n'a les mêmes rêves que toi, c'est bizarre, tu vois, personne ne fait ça comme toi. Ça, vous laissez tomber. Vous pensez vos rêves, ils sont là. Vous pensez, je les accomplirai. C'est la pensée des possibilités. Cette pensée vous connecte avec Dieu. Amen. Parce que, vous voyez, Jésus était irrité par leur incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, vous savez, souvent, on y met un paquet religieux et on dit, bon, moi, je ne suis pas incrédule parce que j'ai une vie chrétienne. Mais on est plein d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas possibilité. On ne pense pas en termes de possibilités. On est dans notre boîte les uns et les autres. On est conditionné, on est enfermé, on est rétréci parce qu'on est écrasé par les circonstances extérieures de notre vie. Et on n'ose pas se projeter dans l'avenir. On n'ose pas ouvrir la boîte parce qu'on a peur de l'échec. On a peur parce qu'on ne pense pas possibilités et on a des peurs qui sont là. Donc, frères et sœurs, pour être un penseur des possibilités, Entre autre chose, je vais vous donner pas mal de choses, mais entre autre chose, premièrement, je dois mettre dans mon langage les deux petits mots « je peux le faire, je peux l'avoir, je peux réaliser cela, je peux être cette personne-là, je peux ». Mettez cela dans votre cœur, plutôt dans votre tête. Je vous parle de votre tête ce soir. Je vous parle pas de votre cœur. Je vous parle de votre pensée, voyez ? Je peux, alléluia. Alors, il y a quatre qualités qu'un penseur de possibilités doit avoir. Et je sais qu'on l'a tous. Premièrement, l'imagination. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, ben, l'imagination est très spirituelle. Dieu a parlé à Abraham par des rêves. Dieu parle dans notre imagination. Pour que Abraham puisse rêver, Dieu lui a dit, regarde les étoiles, fais-toi une idée de ta postérité. La postérité, c'est des hommes ou des femmes, des enfants. C'est pas des étoiles. Oui, mais Dieu lui a montré quelque chose qui l'a fait rêver, qui s'adressait à son imaginaire. Dieu veut que nous agissions avec notre imaginaire. Nous ne sommes plus des enfants, mais nous avons toujours un imaginaire. Alors, les enfants ont un imaginaire extraordinaire, d'accord ? Bon, mais nous avons grandi, mais nous avons toujours notre imaginaire. Et si nous sommes équilibrés dans notre personnalité, nous pouvons utiliser notre imaginaire. Pour penser, je peux entrevoir cette situation-là, je peux réaliser cela, je peux voir cette situation, je peux la voir dans mon imaginaire, je peux savoir que c'est possible. L'imagination est une puissance. Tout ce que Dieu nous a donné, si nous l'utilisons dans le sens des possibilités, c'est extrêmement puissant. Mais si nous l'utilisons dans le sens de l'impossibilité, ça nous paralyse totalement. C'est pourquoi Jésus s'est mis en colère. Race incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous vous rendez compte ce qu'il disait à ses disciples? On sait qu'il les aimait. Mais l'incrédulité l'irritait au point qu'il se mettait en colère après eux. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas en termes de possibilités. Il n'était pas connecté à la foi. La foi dit « tout est possible à celui qui croit ». Alors je ne crois pas les mêmes choses que vous. Vous ne croyez pas les mêmes choses que vos frères et sœurs ou que moi. Mais ce que vous croyez, amen, eh bien vous le croyez. Alors il y a intérêt à ce que vous croyez soit connecté à votre pensée de possibilité. Parce que si ce que vous croyez est connecté à votre pensée d'impossibilité, ça ne viendra jamais à la vie. Vous me suivez? Si ce que vous croyez est connecté à votre pensée qui est constamment dans le monde du négatif et de l'impossible, jamais ce que vous croyez viendra à la vie. Mais si ce que vous croyez, eh bien, est connecté à votre pensée qui est ouverte aux possibilités, qui dit « c'est possible, je peux », eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se faire et les choses vont changer. Mes frères et sœurs, c'est tous les jours qu'on a besoin d'être connectés à ce « tout est possible ». Amen. C'est tous les jours qu'il nous faut travailler parce que notre imagination va travailler avec nous. Amen. Vous savez, ne vous endormez pas sur de mauvaises images. Moi, constamment, Bernard, mes témoins, quand il y a des images difficiles à la télé, moi, je zappe. Pourquoi? Je ne veux pas avoir d'images négatives. Je ne crains pas la réalité. Hein, je regarde des émissions où il y a des choses terribles qui se passent. Mais il y a des choses que je ne veux pas voir parce que ça me bouleverse trop. Et je zappe. Merci, Seigneur, pour le zap. Parce que le moment où je vais m'endormir, je ne veux pas avoir des images négatives et m'endormir sur des choses négatives. Je tourne mes yeux vers le ciel. Amen. Je veux m'endormir avec le Seigneur, dans la paix. Amen. Et donc, c'est pourquoi, parce que si je veux être un penseur positif, je ne vais pas laisser n'importe quelle chose négative me manipuler. Vous savez, les problèmes des gens, le diable est subtil. Vous enferme à un point. Il y a des chrétiens qui sont terrorisés, qui vivent dans la peur parce qu'ils regardent à la télévision des émissions sur des femmes qu'on tue, qu'on viole ou je ne sais quoi. Et ils vivent constamment dans la peur. Ils ferment à... C'est bien d'être prudent. Mais Dieu dit non, tu ne peux pas vivre dans la peur. Parce que là, tu n'auras jamais de foi. Tu dois vivre dans la foi et dans la confiance dans ton Dieu. Ça, c'est la confiance dans la parole de Dieu. Amen. Mais si tu penses que c'est possible qu'on vienne te matraquer chez toi... Tu ouvres les portes. Ça, c'est pas la bonne possibilité. C'est la mauvaise. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Regardons quelques points encore. Ah non, mais j'en suis dans mes quatre qualités d'un penseur positif. Premièrement, l'imagination. Vous avez tous de l'imagination. Nous avons tous de l'imagination. Libérons-la. Rêvez quelquefois. Osez rêver. Osez préparer votre futur en rêvant. Dans Osée, il est dit, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit viendra sur ses enfants, ses hommes et ses femmes, ses serviteurs et ses servantes. Ils auront des songes, ils auront des visions. Le Saint-Esprit travaillera en nous, à travers des songes et des visions. Alors, il y a les songes et les visions que nous donne le Saint-Esprit, ça, on les fabrique pas. Et puis, il y a ces rêves qu'on a dans notre esprit, dans notre imaginaire, qui ont besoin d'être libérés aussi, pour notre vie propre. Et que Dieu va vous donner un rêve, pour votre mariage, par exemple. C'est vous qui l'avez dans votre cœur, ce rêve. Alors, c'est bien sûr, c'est fabriqué dans votre esprit, mais c'est aussi vous qui rêvez de votre vie future, de votre mariage, de votre travail, de votre avenir, de votre famille. Vous la prévoyez, vous en rêvez. Je parle par exemple à ces jeunes qui ont des projets. Ils doivent rêver à leur futur. Est-ce qu'ils doivent attendre un rêve de Dieu? Non, c'est pas la peine. Si Dieu veut leur en donner, il leur en donnera, mais c'est pas la peine. Ils ont leurs propres rêves. Moi, quand je me suis mariée avec Bernard, je n'étais pas chrétienne, mais c'est vrai que j'avais un rêve dans mon cœur. J'avais un rêve d'habiter quelque part, de vivre quelque part d'une certaine façon. C'était dans mon cœur, c'était dans un rêve qui s'est réalisé. Alors, vous n'avez pas le même que moi, mais vous en avez des rêves. Et certains se sont réalisés. Mais frères et sœurs, il nous faut continuer de rêver. C'est notre imaginaire. Et non seulement de rêver, mais de dire « je peux le réaliser ». C'est autre chose. Souvent, on a des rêves et puis on les abandonne. C'était des rêves, c'est naïf. Non, j'y crois pas. Mais si, si tu commences à saisir que Dieu t'appelle à être un penseur de possibilités, ton rêve, tu vas le réaliser. Parce que le « je peux » va ouvrir la voie. Le « je peux » va te donner de l'énergie. Le « je peux » va te donner des forces. Le « je peux » va te donner de reprendre tes rêves et d'aller de l'avant. L'imaginaire est puissant. Ne l'abandonnez pas. Deuxièmement, il y a l'engagement. Quand on a un rêve et qu'on commence à penser possibilité, on s'engage dans ce que l'on rêve. Il y a un engagement qui vient. On n'est pas, vous voyez, des gens fluctuants, rêvant et puis n'ayant pas les pieds sur terre. Non, on s'engage dans notre rêve. Vous voyez ? La vie va créer les choses parce qu'on est en train d'y croire. Parce que Dieu est là. Vous savez, on met tout avec Dieu. Mais Dieu nous a donné sa parole, il nous a tout donné, mais nous, notre pensée, est-ce qu'elle est ouverte à la possibilité que Dieu peut nous donner toutes choses ? Est-ce que nous avons une possibilité ouverte dans notre pensée ? Et est-ce que nous croyons que c'est possible ? Ça, c'est notre monde humain. Vous voyez, souvent on spiritualise tout. Mais frères et sœurs, il y a aussi la nature humaine qui a besoin d'être ouverte, d'être adaptée. Si l'ange a dit « rien n'est impossible à Dieu, Marie », alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Rien n'est impossible à Dieu. Je crois, je suis la servante du Seigneur. J'y crois, j'y vais. C'était pas mystique, frères et sœurs. Simplement, elle a dit « c'est possible ». Bon, j'accepte cette possibilité. Vous savez, la Bible n'est pas mystique. La Bible est un livre de foi. La foi me connecte à Dieu qui me dit « tout est possible à celui qui croit ». La foi, c'est croire. Lorsque je suis négative, lorsque je dis « je ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas », et ça m'arrive, eh bien, je ne suis pas dans la lumière, je suis dans les ténèbres. Mais quand je dis « c'est possible », « oui, tu peux », « je peux y arriver, je peux », je suis en relation avec la foi de Dieu. Amen. Et je sens la présence de Dieu là. Alors, premier point, l'imagination. Ouvrez votre imaginaire. Ne craignez pas d'y rêver. Ne craignez pas d'imaginer le meilleur. Ne craignez pas d'avoir confiance dans la vie. Deuxièmement, eh bien, vous allez être engagé dans votre vie. Celui qui n'a pas d'engagement ne peut rien réaliser. Ceux qui ont fait de grandes choses et qui ont réalisé de grandes choses étaient engagés. Là, simplement, on parle de Newton, mais c'était un homme qui cherchait. Il était en recherche de quelque chose. Quand on est en recherche, on a l'esprit ouvert et on a la pensée ouverte. On prend à droite, à gauche des idées. On est toujours en travail. Vous savez, la plupart des gens sont très paresseux. Moi, je suis étonnée de ce que je fais, à côté de ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Et je me rends compte, les gens sont paresseux. Bernard et moi, je suis toujours en train de travailler avec ma tête. Ma tête est toujours en travail. Je regarde une émission, une télé, je cherche toujours une idée. Je ne suis pas un modèle extraordinaire, mais je parle de moi simplement, parce que je vois que les gens, souvent, sont paresseux. Ils aiment leurs petits trucs, leurs petits machins, rentrent chez eux, ils pensent, mais leur esprit n'est pas ouvert à des choses. Même la vie a beaucoup de choses à nous apprendre. Nous devons être ouverts. On a un tel potentiel en nous que l'on n'utilise pas. C'est une attitude qu'il nous faut avoir. Et dans cette attitude, il y a les possibilités qui vont venir à nous. On a besoin de travailler cela. L'imagination, l'engagement. L'engagement, c'est quoi ? C'est croire dans nos rêves. C'est croire que c'est possible. C'est pas rester sans rien faire, c'est être alerte. Comment je vais réaliser cela ? Après, c'est mon monde à moi. Parce que je sais une chose, frères et sœurs, Dieu donne des choses, Dieu donne des rêves, Dieu donne la parole, mais le reste, c'est à nous de le mettre en place. C'est à nous de faire. On voit bien que si on ne fait rien, on reçoit de Dieu l'impulsion, on reçoit de la parole. Mais le reste, c'est à nous de le mettre devant nous, c'est à nous d'entrer dedans. Vous êtes d'accord ? Je vais donner un exemple. Excuse-moi Brigitte, mais je sais comme tu aimes beaucoup la comptabilité. C'était le monde des possibilités. Elle a fait sa part. Elle aimait ça. Elle a fait sa part. Là, elle continue de faire sa part. Et elle fait sa place. Et c'est pas facile, parce que c'est pas facile. Mais l'engagement est là, le désir est là, et ce qu'elle aime est là. Et elle continue de faire sa place, sans faire marche arrière, parce que dans sa tête, je pense, elle pense en possibilités. Et elle a raison. Chacun a un rêve, un désir, mais souvent, vous voyez, les circonstances de la vie nous font baisser les bras. Mais nous devons apprendre à être des penseurs de possibilités. c'est possible de refaire ma vie. C'est possible de réussir dans mon travail. C'est possible d'être un sportif. C'est possible de réussir quelque chose que j'ai dans mon cœur. C'est possible. Alors, premièrement, j'ai mon imagination. Deuxièmement, j'ai un engagement. Troisièmement, je dois faire attention à l'esprit de confusion qui flotte partout. Je vais vous dire, l'esprit de confusion, c'est ne pas affirmer ce qu'on veut et ce qu'on sait. Vous savez, Jésus a été très affirmatif. C'est comme ça. Je veux ça. Je veux passer par là. Je vais réussir. Jésus affirmait ce qu'il voulait. Et vous savez, la confusion, c'est avoir deux pensées, double minded, comment on dit, deux pensées. Hein? Deux pensées. Ça arrive. Et quand vous avez deux pensées, cherchez pas plus loin, liez l'esprit de confusion et chassez-le au nom de Jésus. C'est l'esprit de confusion qui vient vous mettre la pagaille. Parce que dans la Bible, il n'y a pas deux pensées, il y en a une. Et le Seigneur nous montre l'exemple, il est vraiment le penseur de possibilités. Il a dit, oui, je viens avec toi. Ma fille est malade, elle est morte, je viens avec toi. Ne crains pas, Jaïrus. Crois seulement. On y va. On y va. Il y a Jésus sous cet aspect aussi, vous savez. Et nous, on a besoin de grandir dans ces choses. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc, troisièmement, être ferme sur ce que l'on croit. Affirmer ce que l'on croit, c'est très important. Vous savez, regardez, on se dit les chrétiens flottants, sont des gens qui n'ont jamais affirmé leur foi. Des gens viennent à l'église, merci Seigneur, il y a un mouvement qui commence là, c'est bien, il faut continuer. Mais vous les voyez, ils affirment pas leur foi, ils viennent pas devant aux appels. Et ces gens-là, ben, ils sont dans la nature, parce que le christianisme est une religion, on pourrait dire, d'affirmation. Je crois que Jésus est le sauveur du monde, seul Seigneur, qu'il a versé son sang pour moi, qu'il est mort pour moi, je crois, j'affirme. Eh bien, dans ma vie personnelle, je peux affirmer aussi ce que je crois, mes possibilités, dans mes rêves, ce que je désire avoir, je peux l'affirmer. J'ai besoin de l'affirmer. Je peux trouver une compagne, je peux trouver un compagnon, je peux ne plus être tout seul, je peux. Je peux. Amen. Le mot le plus puissant, lorsqu'on est rempli de foi, c'est je peux. Avec Dieu, je peux. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Je peux. Je vais passer, je peux. Mais il faut de la force. Il faut de l'engagement, frères et sœurs, et il faut de l'affirmation. Je peux. Alléluia. Et le quatrième point, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Je connais. On n'abandonne pas. En plus, quand nos rêves viennent de Dieu, on n'abandonne jamais. Et pourtant, d'autres, à notre place, auraient depuis longtemps abandonné. Mais on n'abandonne pas, parce que c'est Dieu qui nous a placés là. C'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est discutable, vous pouvez discuter, faire des... Mais Dieu m'a placé là. Dieu vous a placé. Dieu, c'est Dieu. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait abandonné si ce n'était pas Dieu. C'est vrai, elle a raison. Mais Dieu... Et là, on n'abandonne jamais. Et dans notre vie, on doit apprendre à ne pas abandonner. Vous savez, Bernard était un cavalier, et je l'ai vu à ses débuts. Il montait sur un grand cheval, il montait, il sautait. Il avait un ami à lui qui avait un manège, donc, hein, qui était un professionnel, qui lui apprenait, mais de la façon hard. Il lui faisait sauter des gros obstacles, et Bernard tombait, il faisait des sauts. Une ou deux fois, j'ai vu faire des sauts par-dessus son cheval et tout. Et je disais, oh, il se relève, remonte tout de suite, allez, il faut qu'il repasse. Il fallait repasser l'obstacle jusqu'à ce que le cheval et le cavalier devaient toujours repasser l'obstacle. Jamais d'échec. Un cheval qui ne repasse pas un obstacle, Bernard l'expliquerait mieux que moi, eh bien, il apprend à dire non et après, il ne veut plus passer les obstacles. Un cheval, même si c'est casser la figure, il faut que le cavalier remonte dessus, le reprenne et lui fasse remonter son obstacle jusqu'à ce qu'il réussisse. Tant pis s'il perd le concours, il doit repasser son obstacle. Ça, c'est une bonne méthode. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. C'est le sport forme bien les gens. Forme à ne pas abandonner. Alléluia. Donc, c'était les quatre possibilités du penseur de possibilités, n'est-ce pas? Quatre qualités qu'il nous faut avoir, mais que l'on a lorsqu'on commence à penser possibilité, cela vient en nous, vous voyez? C'est parce qu'on vit dans l'impossibilité, dans le négatif, dans l'incrédulité, qu'on n'a pas ce jet de force-là. Mais quand on vit dans la pensée des possibilités, on a cette force, on a ce rayonnement, on a ce « je tiens, je tiendrai de toute façon ». Amen. Je n'abandonne pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voyez, cette parole est puissante. Je vais lire quelques autres passages où Jésus, dans Matthieu, par exemple, 19. Matthieu l'a reprise. Je ne sais pas si c'est la même chose. Matthieu 19, le verset 26. Jésus le regarda. Eh oui, là, c'est encore une parole qu'il va donner, vous voyez. Dans une autre circonstance, en fin de compte, c'est le jeune homme riche. Jésus a beaucoup parlé. En fait, pas le même passage. C'est le jeune homme riche. Et en fin de compte, Jésus l'appelle à le suivre. Et il ne peut pas parce qu'il est attaché à tout son travail, ses biens. Et les disciples disent, mais comment est-ce que quelqu'un peut suivre le Seigneur si lui, il n'y arrive pas? Personne ne peut y arriver. Et les disciples vont dire ça. Et vont même dire, mais qui donc peut être sauvé? Et Jésus va les regarder et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est Jésus qui nous dit, à Dieu, tout est possible. Donc crois à Dieu. Crois dans ce Dieu de l'impossible. Crois dans ce Dieu qui rend l'impossible possible. Ce Dieu du possible. Aux hommes, tout est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Tout est possible. Regardons maintenant Marc 10, 27. Je voudrais mettre cela dans votre cœur. Soyons des penseurs de possibilités. Parce que si nous pensons impossibilités, eh bien, nous mettons toute cette puissance qui est en nous, nous la mettons totalement, on peut dire, à l'arrêt. Nous arrêtons tout. Alors, regardez dans Marc 10, verset 27. Il est dit, Jésus les regarda. Et oui, c'est encore l'homme riche, hein, c'est la même histoire. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Luc 18, parce que, voyez, les disciples l'ont repris, cette parole. Luc 18. Parce que ça les a beaucoup touchés. 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors soyons des penseurs de possibilités. Je vais vous dire le premier point qui fait que quelque chose nous empêche d'être un penseur de possibilités. C'est premièrement que nous n'avons pas confiance en nous. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, je me dois de travailler cela. J'ai ce devoir d'avoir confiance en moi. Je dis pas d'avoir de l'orgueil ou de me sentir supérieur aux autres, parce que ça ne passera pas. Dieu combattra cela. Mais simplement, je me dois d'être confiant dans ce que je suis, dans ce que Dieu a fait de moi en Christ. Amen. Et je dois développer ma confiance en moi. Il faut la développer, parce qu'elle n'est pas innée. Vous allez vous trouver dans des situations où vous allez vous sentir mal ou isolé, où vous sentez l'esprit de rejet vous mettre à part. Il faut combattre cela. Vous savez, j'ai subi l'esprit de rejet. C'est une catastrophe, l'esprit de rejet. Il crée des divisions, des histoires. C'est un problème, les gens qui ont l'esprit de rejet. Moi, je l'ai subi pendant des années et je l'ai combattu. Mais pendant des années, je me sentais isolée dans des foules, hein, où j'étais souvent confrontée à toutes sortes de situations avec beaucoup de gens, et je me sentais seule. Et je pensais que personne ne m'aimait, que personne ne m'appréciait. C'est une catastrophe, l'esprit de rejet. Qui n'a pas été dans ce... Moi, je l'ai eu très très fort. J'en ai beaucoup souffert. Ça se voyait pas. Mais intérieurement, j'aurais pris mon sac, mes clics et mes claques, et j'aurais fui à des kilomètres. Et même en tant que chrétienne, j'ai dû apprendre et me fortifier, et m'encourager à m'opposer à cet esprit de rejet qui fait que vous avez envie de fuir les gens, vous isoler parce que vous êtes mal à l'intérieur de vous-même et que vous vous sentez rejeté par les autres. Vous croyez que tout le monde vous rejette. C'est un mensonge d'un démon qui vous assaille. Il faut s'opposer à ce démon jusqu'à ce que... Il faut le combattre. Il faut lui résister. Donc je dois développer ma confiance en moi-même parce que le « je peux », c'est une affirmation de confiance en soi dans la vie. Je peux le faire. Je peux le réaliser. Je peux accomplir mes rêves. Je peux aller de l'avant. Je sais que je peux. C'est avoir confiance en soi. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Alléluia. Donc si j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans la vie. Et si j'ai confiance dans la vie, j'ai confiance en Dieu. Je peux. Ensuite, le deuxième point, c'est que il y a une peur qui m'empêche de croire, d'être un croyant de possibilité. Cette peur, c'est la peur de l'échec. On a peur de pas réussir. On a peur de l'échec. Beaucoup de gens ont des peurs qui les empêchent d'avancer parce qu'ils ont peur de ce que vont penser les autres s'ils échouent. Mais en fin de compte, c'est là que l'histoire du scientifique arrive. Si nous vivons notre vie comme une expérience personnelle, des expériences, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les autres vont penser de nous ? Puisque nous, nous sommes dans un processus avec Dieu où nous expérimentons un certain nombre de choses. Je ne vis pas mes expériences en fonction de ce que pensent les gens. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi maintenant ? Je ne sais plus, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je suis dans un processus, n'est-ce pas, où j'expérimente des choses dans ma vie. Amen. Je m'ouvre à toutes sortes de choses de façon à m'élargir et à apprendre de la vie. Car la vie a toujours quelque chose à m'apprendre. À tout âge, la vie est riche en elle-même. J'aime la vie. J'aime la vie. Est-ce que vous aimez la vie ? J'aime la vie. Donc, examinons la peur. Parce que la peur qu'on a, par exemple, de faire quelque chose ou d'affronter quelque chose, c'est parce qu'on a peur de l'échec. Et cette peur-là, il va falloir l'éliminer. Parce que dans la vie, il y a des échecs. Et l'échec, il est un échec que si vous considérez qu'il est un échec. Qui vous montre, en fin de compte, qu'un échec peut être un tremplin pour réussir. Tout dépend comment vous abordez les choses. C'est pourquoi il nous faut nous former pour être des penseurs positifs, des penseurs de possibilités. Je vous fais un cours, là, qui pourrait être un cours de positif, mais c'est un cours réellement qui répond à la foi. Parce que voyez, nous disons, j'ai la foi, je confesse la parole, d'accord ? Et dans ma tête, c'est non, je peux pas, j'ai trop de problèmes, il y a pas de possibilité, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Comment est-ce qu'on peut libérer notre foi ? En étant un penseur d'impossibilité. Ça va pas avec. Et cet après-midi, le Seigneur m'a dit, mais vraiment, penseur de possibilité. C'est un message que je connais bien, je l'ai enseigné déjà. Je l'ai enseigné il y a longtemps, je le connais bien ce message. Mais est-ce que je l'applique dans ma vie ? Est-ce que nous l'appliquons ? On a besoin de l'appliquer. Parce que je vais vous dire, si on examine nos paroles et nos attitudes dans une journée, si on s'examine dans une journée, on verra combien de fois on a parlé impossibilité et on a pensé qu'on ne pouvait pas. Combien de fois ? On est étonnés. Tous, on a besoin de changer notre pensée et de penser possibilité. Donc, il y a toutes sortes d'échecs dans la vie. Mais je vous dis, un échec, c'est parce qu'on le considère ainsi qu'il est un échec. Et vivre dans l'échec, ça, c'est une attitude mentale extrêmement négative. Vivre dans l'échec. Vous voyez ? Ça, c'est être un penseur négatif. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut qu'on vive notre vie comme si on était un scientifique qui fait des expériences. Nous avons une direction, nous avons des rêves, nous développons une confiance en nous-mêmes, une confiance dans la vie, et nous déclarons, c'est possible, je peux. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Et nous libérons un potentiel puissant dans ce monde, parce que nous sommes connectés à Dieu. Vous croyez que les disciples ont vécu dans le flou ? Ils ont eu dès le départ la possibilité d'évangéliser Jérusalem. Ils ont dit, nous pouvons, avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu, nous pouvons. Ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir réussir. Ils sont allés se placer dans des endroits stratégiques, ils ont prêché la parole, ils ont fait des miracles, ils ont vraiment libéré la puissance du Saint-Esprit, alléluia, et Dieu a touché les gens parce qu'ils croyaient que c'était possible. Ils l'ont eu. Les autres disciples qui ont été ensuite totalement obligés de quitter Jérusalem, c'est pareil, ils avaient un rêve dans leur cœur, évangéliser. Jésus avait dit, allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. Ils avaient ce rêve, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils évangélisaient tous les villages par lesquels ils passaient. Il y avait une persécution qui était venue à cause d'Étienne, qui avait été lapidé. Alors ils évangélisaient les villages parce qu'ils savaient que c'était possible de convertir les gens. Enfin, on a besoin de se réveiller. Le véritable échec, c'est avoir une attitude mentale négative. Quand on a une attitude mentale négative, on vit dans l'échec. Alors que les gens peuvent voir autour de vous quelquefois des réussites, vous ne voyez que l'échec. Et ce que vous voyez, c'est ce qui vous détermine. C'est pas les autres qui vont déterminer ce que vous êtes, c'est vous. C'est moi qui détermine ce que je suis. Personne peut me dire ta vie est un échec ou ta vie... Non, c'est moi qui détermine ce que je pense de ma vie. Personne peut avoir une opinion qui va m'influencer sur ma vie parce que je sais ce que je vis et c'est moi qui influence ma propre vie. Je pense certaines choses de ma vie. Et puisque je pense sur la vie des autres, ça, c'est pas juste. C'est ce que vous pensez de votre propre vie qui compte. Alors n'ayons pas une attitude mentale, parce que négative, parce que ça, c'est vraiment être dans l'échec. Alors premièrement, pour être un penseur de possibilités, il nous faut avoir confiance en nous. Et ça, c'est à développer. J'ai confiance en moi parce que tu m'aimes, Seigneur, tu es avec moi, tu m'acceptes, tel que je suis. Ça veut dire, je crois que tu m'aimes tel que je suis. Je ne vais pas me refaire pour te plaire. Je ne vais pas mettre un voile pour te plaire. Vous avez vu cette femme qui est venue dimanche ? Voilà ce que c'est que marcher dans les ténèbres. C'est des gens qui ont été dans la lumière, qui sont pleins d'amertume et de méchanceté. Ils sont maintenant dans les ténèbres, ils sont prêts à faire du mal et à dire du mal partout où ils vont. C'est des gens qui ne sont plus que dans les ténèbres. C'est des penseurs négatifs et des gens prêts à maudire je ne sais qui et à dire des choses horribles. Mais à l'intérieur, le cœur est dans les ténèbres. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Quand on commence à avoir une attitude mentale négative, on vit dans l'échec. Premièrement, ayons confiance en nous. Ayons confiance dans le potentiel qui est en nous. Deuxièmement, examinons nos peurs et qui nous empêchent de croire dans nos possibilités et commençons à vraiment les mettre par terre, on pourrait dire. Commençons vraiment par nous attaquer à ces peurs et commençons à les faire tomber. Parce que la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, c'est vraiment un manque de confiance en soi. Et c'est vraiment ne pas avoir compris le sens même de la vie. Dans la vie, il y aura des échecs et il y aura des réussites. Mais l'échec ne sera pas un échec si vous ne considérez pas qu'il est un échec. Si vous le considérez comme un échec, il sera un échec. Mais si vous le considérez comme une expérience, vous allez grandir parce que vous allez apprendre. Il nous faut arrêter nos peurs avant qu'elles ne nous arrêtent. Il faut nous opposer à nos peurs. Il faut les identifier. On ne s'oppose pas à 50 peurs à la fois, une à la fois. Moi, j'avais la peur de vivre dans une grande maison. J'avais peur de vivre à la campagne. J'avais peur de certaines choses. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis attaquée à ce genre de peur. Ce n'est pas les plus grosses, il y en a les plus subtiles. Après, avec le temps, il y en a d'autres qui viennent. Mais, en tous les cas, celles-ci, elles sont tombées. Amen. On ne peut pas s'attaquer à 50 peurs, une peur à la fois. Mais attaquez-vous ça avec à cette peur avec la parole de Dieu. L'Éternel est votre berger. Il est celui qui vous garde. La parole de Dieu est là pour nous. Amen. Chaque peur doit être arrêtée dans nos vies. Amen. Parce que sinon, elles vont nous arrêter. J'ai noté, la peur se nourrit de l'obscurité. Et tout ce qui est porteur de paix marche dans les ténèbres. Satan marche dans les ténèbres. Cette femme-là, elle marche dans les ténèbres. Elle n'était pas contente de ce qui se passait au milieu de nous. La joie, la fraîcheur de cette église, la gentillesse des gens, ça ne lui plaisait pas. Parce qu'elle marche dans les ténèbres. Mais la foi marche dans la lumière. La foi s'épanouit dans la lumière. Qu'est-ce qu'on a à cacher ? Nous nous épanouissons dans la lumière. Amen. Alléluia. Derrière la peur de l'échec, vous savez ce qu'il y a ? Ça, c'est pas moi, je l'ai noté. C'est la peur d'être abandonné. Dans la peur de l'échec, c'est la peur d'être abandonné. Et donc, attendez, ça va encore plus loin. Si vous avez peur d'être abandonné, c'est que derrière cela, si on vous abandonne, vous allez perdre votre estime de vous-même. Et ça, c'est terrible. Vous voyez ? Ne plus s'estimer soi-même. Donc, le fait d'être abandonné, c'est les enfants qui ont été abandonnés. Ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ils se sentent perdus, rien. Et Dieu veut les aider à reprendre l'estime d'eux-mêmes. Parce que avoir été abandonné est tellement injuste et tellement douloureux, voyez, que ça vous casse votre estime de vous-même. Vous vous sentez différent, vous vous sentez pas comme les autres. Vous enviez les autres qui ont une belle famille. Et vous, vous avez été abandonné, vous souffrez, votre image est brisée. Donc la peur de l'échec, c'est la peur d'être abandonné. Et quand on est abandonné, eh bien, on n'a plus d'estime pour soi-même. C'est pourquoi le Seigneur, lui, il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Commence à t'aimer parce que je ne t'ai pas abandonné, parce que je suis ton père, parce que tu as une famille, parce que tu n'es plus seul, tu n'es pas un enfant abandonné, tu es un enfant adopté, tu as été choisi par ton père, tu as un père qui t'aime, donc ne crains pas, ne crains pas d'être abandonné, ne crains pas l'échec, et confiance en toi et de l'estime pour toi-même, parce que tu as un papa. Nous avons un bon Père. Alors, frères et sœurs, je vais m'arrêter là, mais je vais résumer un petit peu tout cela. Premièrement, Soyons des penseurs de possibilités dans notre journée. Commençons un jour après l'autre. Vérifions nos paroles. Vérifions nos attitudes. Vérifions nos rêves. 4 qualités pour être un penseur positif. Libérons notre imagination. Amen. C'est possible. Oui, c'est possible de rêver un monde nouveau. C'est possible une école chrétienne. C'est possible des choses extraordinaires. Mais c'est possible de croire que certaines choses peuvent se manifester. Notre imaginaire a besoin d'être actif. Deuxièmement, nous avons besoin d'être engagés dans ce que nous croyons. Troisièmement, nous avons besoin d'être affirmatifs. L'engagement et l'affirmation, c'est une parole, l'affirmation. C'est l'opposé de la confusion. Oh, je ne sais pas. Est-ce que Dieu guérit? Non. Peut-être que je peux être malade. Si je suis malade, ben c'est peut-être que j'ai mal fait. Dieu veut me juger. C'est de la salade chinoise, qui est bonne d'ailleurs. Non, mais ça, c'est pas bon. Jeter par terre. Non, Dieu nous aime. Amen. Quand on est malade, c'est qu'on a un problème. Quand on a un accident, c'est l'ennemi qui nous a fait tomber. Dieu n'est pas là-dedans. Par contre, on vit quelque chose dans ces situations parce que Dieu nous aide. Dieu merci, il nous relève, il nous fortifie, il nous met sa paix, il nous rassure, il est là. Gloire à Dieu. Donc, le quatrième point, n'abandonnons jamais. Rappelez-vous que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et Marie a cru l'impossible de Dieu.